Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. Региональный этап для учащихся 9-11 классов. Уровень сложности B2. Конкурс понимания устного текста.
Compréhension de l'oral. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. Vous lisez maintenant les questions. Vous avez 3 minutes. Vous écoutez maintenant l'enregistrement.
De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Si Paris est la capitale mondiale de la mode et que la France a longtemps compté sur son territoire des régions fleurons de l'industrie textile, 70% de la production vendue aujourd'hui en France vient d'Asie du Sud-Est. La fast fashion, traduisée par mode express, jetable, et la mondialisation économique ont bouleversé la donne et généré des dégâts sociaux et environnementaux non négligeables. La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Chaque année, 140 milliards de vêtements sont produits dans le monde, 4 fois plus qu'en 1980. Et les conditions de travail sont souvent dénoncées. De la mode jetable à la mode éthique et équitable. Comment sortir du cercle vicieux? Comment réinventer la mode et notre façon de la consommer? Réponse aujourd'hui avec Majdouline Zbahi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste dans l'environnement, organisatrice du Forum national de la mode circulaire et auteur du livre « Une mode éthique est-elle possible ?», un livre édité aux éditions Rue de l'Échiquier. À vos côtés, Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des techniques traditionnelles de production textile et de teinture. Et par téléphone, avec nous également, David Santandreux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître teinturier dans l'Hérault, à Courgnoux-les-Grottes. Comment ne plus être victime de la mode? Eh bien, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui dans cette émission, en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde. Bonjour à tous et bienvenue.
Pour autant, faut-il boycotter les vêtements fabriqués en Asie, a fortiori au Bangladesh?
Ça reviendrait à infliger une double peine à ces travailleurs, à 4 millions de travailleurs qui ont besoin de l'industrie du textile pour vivre. Donc l'idée, c'est plutôt de faire pression sur les marques, sur les donneurs d'ordre, qui, eux, ont toutes les clés en main pour pouvoir faire évoluer des conditions de production et donc des conditions de travail des travailleurs en bout de chaîne.
Ce 24 avril 2013, cette usine donc textile du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh s'effondre, fait 1200 morts. Et c'est un événement marquant, un déclencheur pour vous, je crois.
Oui, c'est un déclencheur, comme je pense beaucoup de citoyens, et même c'est un événement qui a touché le monde entier, où a été révélée en fait la réalité des conséquences de nos choix de production de produits de mode et d'habillement, et de nos choix de consommation. Puisqu'au travers de cette catastrophe qui a tué plus d'un millier de personnes, on a analysé, on a expliqué finalement comment fonctionnait aujourd'hui l'industrie de la mode, qu'elle cherchait effectivement le moins cher, le plus rapide, quelles que soient les conditions de travail, quelle que soit la façon dont on réalisait les produits. Et donc, forcément, ça m'a interrogée sur ma propre histoire, puisque on a arrêté de produire du textile, en tout cas une grande partie de l'industrie manufacturière textile qui existait dans ma région, le Nord-Pas-de-Calais, a été sous-traitée ou délocalisée en Asie du Sud-Est. Et finalement, des dizaines de milliers de personnes ont perdu des emplois dans le Nord-Pas-de-Calais pour créer une réalité, celle qu'on a vue surgir pendant la catastrophe du Rana Plaza, pour créer une réalité terrible de travail pour d'autres personnes.
Donc cette situation dans votre ville natale, finalement, hein, vous l'avez ressentie et ça a déterminé aussi vos travaux de recherche?
Oui, parce que quand on grandit dans ce territoire-là, il est marqué par l'industrie textile et il a vu s'effondrer les châteaux de l'industrie. Et donc, tout autour de moi, durant mon enfance, mon adolescence, j'ai vu ces friches industrielles et puis j'ai entendu aussi ces récits portés par l'ensemble des proches, des amis, des gens de ces villes qui racontaient l'âge d'or de l'industrie textile et qui racontaient aussi comment les usines avaient fermé. C'est pour ça qu'il y avait des taux de chômage records et des situations de grande pauvreté. Et puis plus tard, moi je me suis investie dans des projets de transition écologique. J'ai voulu comprendre ces réalités-là. Puis un jour, j'ai décidé de comprendre ce qui s'était passé dans le monde économique, parce que souvent, on le passait de côté, c'était une fatalité, c'était normal. Au nom de la compétitivité, on avait fait d'autres choix d'organisation de l'économie. Et j'ai décidé de m'interroger quels étaient ces choix, pourquoi les avait-on fait et comment aujourd'hui on pouvait agir.
Vous commencez à répondre aux questions, vous avez 5 minutes. Vous écoutez l'enregistrement.
De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Si Paris est la capitale mondiale de la mode et que la France a longtemps compté sur son territoire des régions fleurons de l'industrie textile, 70% de la production vendue aujourd'hui en France vient d'Asie du Sud-Est. La fast fashion, traduisée par mode express jetable, et la mondialisation économique ont bouleversé la donne et généré des dégâts sociaux et environnementaux non négligeables. La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Chaque année, 140 milliards de vêtements sont produits dans le monde, 4 fois plus qu'en 1980. Et les conditions de travail sont souvent dénoncées. De la mode jetable à la mode éthique et équitable, comment sortir du cercle vicieux? Comment réinventer la mode et notre façon de la consommer? Réponse aujourd'hui avec Majdouline Zbahi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste dans l'environnement, organisatrice du Forum national de la mode circulaire et auteur du livre « Une mode éthique est-elle possible ?», un livre édité aux éditions Rue de l'Échiquier. À vos côtés, Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des techniques traditionnelles de production textile et de teinture. Et par téléphone avec nous également, David Santandreux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître teinturier dans l'Hérault, à Courgnoux-les-Grottes. Comment ne plus être victime de la mode? Eh bien, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui dans cette émission, en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde. Bonjour à tous et bienvenue.
Pour autant, faut-il boycotter les vêtements fabriqués en Asie, a fortiori au Bangladesh?
Ça reviendrait à infliger une double peine à ces travailleurs, à 4 millions de travailleurs qui ont besoin de l'industrie du textile pour vivre. Donc l'idée, c'est plutôt de faire pression sur les marques, sur les donneurs d'ordre, qui, eux, ont toutes les clés en main pour pouvoir faire évoluer des conditions de production et donc des conditions de travail des travailleurs en bout de chaîne.
Ce 24 avril 2013, cette usine donc textile du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh s'effondre, fait 1200 morts. Et c'est un événement marquant, un déclencheur pour vous, je crois.
Oui, c'est un déclencheur, comme je pense beaucoup de citoyens, et même c'est un événement qui a touché le monde entier, où a été révélée en fait la réalité des conséquences de nos choix de production de produits de mode et d'habillement, et de nos choix de consommation. Puisqu'au travers de cette catastrophe qui a tué plus d'un millier de personnes, on a analysé, on a expliqué finalement comment fonctionnait aujourd'hui l'industrie de la mode, qu'elle cherchait effectivement le moins cher, le plus rapide, quelles que soient les conditions de travail, quelle que soit la façon dont on réalisait les produits. Et donc, forcément, ça m'a interrogée sur ma propre histoire, puisque on a arrêté de produire du textile, en tout cas une grande partie de l'industrie manufacturière textile qui existait dans ma région, le Nord-Pas-de-Calais, a été sous-traitée ou délocalisée en Asie du Sud-Est. Et finalement, des dizaines de milliers de personnes ont perdu des emplois dans le Nord-Pas-de-Calais pour créer une réalité, celle qu'on a vue surgir pendant la catastrophe du Rana Plaza, pour créer une réalité terrible de travail pour d'autres personnes.
Donc cette situation dans votre ville natale, finalement, hein, vous l'avez ressentie et ça a déterminé aussi vos travaux de recherche?
Oui, parce que quand on grandit dans ce territoire-là, il est marqué par l'industrie textile et il a vu s'effondrer les châteaux de l'industrie. Et donc, tout autour de moi, durant mon enfance, mon adolescence, j'ai vu ces friches industrielles et puis j'ai entendu aussi ces récits portés par l'ensemble des proches, des amis, des gens de ces villes qui racontaient l'âge d'or de l'industrie textile et qui racontaient aussi comment les usines avaient fermé. C'est pour ça qu'il y avait des taux de chômage records et des situations de grande pauvreté. Et puis plus tard, moi je me suis investie dans des projets de transition écologique. J'ai voulu comprendre ces réalités-là. Puis un jour, j'ai décidé de comprendre ce qui s'était passé dans le monde économique, parce que souvent, on le passait de côté, c'était une fatalité, c'était normal. Au nom de la compétitivité, on avait fait d'autres choix d'organisation de l'économie. Et j'ai décidé de m'interroger quels étaient ces choix, pourquoi les avait-on fait et comment aujourd'hui on pouvait agir.
Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. L'épreuve est terminée. Vous déposez maintenant vos stylos.